catastrophes liées au changement climatique comme les inondations, les tempêtes, les sécheresses sont chaque année de plus en plus nombreuses et de plus en plus violentes. Et ce sont les populations des pays du sud de la planète qui sont les plus touchées.
Alors comment aider ces populations à faire face à ces catastrophes qui détruisent leurs terres, leurs maisons et même leur vie? C'est l'objet du rapport que publie aujourd'hui l'ONG Oxfam. Et avec nous pour en parler, Isabelle Passe, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de campagne changement climatique à Oxfam France. Et à vos côtés se trouve Romain Benicchio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en charge du programme Changement climatique à Oxfam International. Une organisation en quelques mots que l'on pourrait définir comment, Romain Benicchio?
Une confédération d'organisations non gouvernementales axées sur le développement, l'urgence humanitaire.
Alors pour démarrer cette émission, je vous propose d'écouter les conclusions d'une conférence ouest-africaine sur les changements climatiques et les droits de l'homme qui s'est terminée hier à Lomé au Togo. L'objectif était de déterminer une position commune pour les pays d'Afrique de l'Ouest, une position à défendre lors de la conférence des Nations Unies sur le climat qui se déroulera à Copenhague début décembre. Une position que nous détaille le docteur Daniel Eklou, directeur du département des affaires humanitaires et sociales à la CDAO, au micro de Peter Dogbe.
On est victime d'une situation dont on n'est pas la cause. Donc on a de bonnes raisons de réclamer, je ne dirais pas un dédommagement, mais de réclamer, de parler haut pour que nos positions puissent être prises en compte, pour qu'on ne paye pas pour les autres. L'utilité de cette conférence, c'est que nous opérons dans un environnement international, dans un environnement multipartite qui nécessite des concertations, qui nécessite que des positions soient consolidées pour pouvoir avoir plus de force. C'est ce que la CDAO tente de faire. Et ceci est d'autant plus utile que c'est une question qui est nouveau. Mais ce qui est encore plus nouveau, c'est le fait que les questions liées aux droits de l'homme, les questions liées à la sécurité humaine, n'ont pas jusqu'ici été prises en compte dans ce cadre. Il y a d'autres instances qui s'occupent de l'adaptation au changement climatique, mais c'est la première fois qu'une réunion est organisée également pour prendre en compte les questions de sécurité humaine, les questions de privation des droits de l'homme, puisqu'il y a 5 droits de droit à la nourriture, le droit à la vie, le droit à la santé, au travail, le droit à l'habitat qui seront affectés par ces inondations.
On vient de l'entendre, les Africains disent clairement qu'ils subissent une situation dont ils ne sont pas responsables.
Tout à fait, c'est le fond du problème avec le péril climatique, c'est que les pays, les personnes, les populations les plus vulnérables sont les moins responsables du problème. Et c'est une dynamique qu'on retrouve dans les négociations internationales actuelles sur lesquelles on peut voir deux grands points. Le premier, c'est l'atténuation au changement climatique dans les pays du Nord. Quelles sont les mesures qui vont être prises pour limiter les gaz à effet de serre? Et le deuxième point, c'est comment aider les pays du Sud à s'adapter au changement climatique. Et là, c'est pas une question, je dirais, d'aide traditionnelle type aide publique en développement. C'est une responsabilité des pays industrialisés vis-à-vis de ces pays qui subissent les effets du changement climatique.
Et alors, dans votre rapport, vous soulignez que aider les pays du Sud à faire face au changement climatique, c'est vraiment une obligation pour les pays du Nord. Sinon, on va balayer 50 ans d'aide au développement.
Tout à fait. Malheureusement, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que cette question de l'adaptation au changement climatique est un peu le parent pauvre des négociations. On en parle assez peu. Il y a assez peu de volonté politique sur un chiffrage exact. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu un certain nombre de progrès dans la lutte contre la pauvreté ces dernières années, en termes d'accès à l'éducation, d'accès à la santé. Et tout ça pourrait être remis en cause si on ne prend pas les mesures nécessaires sur l'adaptation.
Ouais, on parle d'une spirale descendante, hein, c'est-à-dire que ces questions climatiques vont venir se surajouter à une situation qui est déjà extrêmement fragilisée.
Tout à fait. On se retrouve dans une situation où le climat est plus hostile dans un grand nombre de pays en développement. Et le développement, la lutte contre la pauvreté devient plus difficile, plus onéreuse. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte.
Oui, vous donnez des exemples, par exemple au Kenya, au Niger ou en Indonésie. On voit bien qu'en fait, par exemple, quand il y a une sécheresse, ce que la famille sacrifie en premier, évidemment, ils essayent de vendre des biens qui étaient essentiels ou de déscolariser les enfants pour les faire travailler parce que il faut bien essayer que la famille survive. Et dans ces cas-là, l'aide à la scolarisation, par exemple, est complètement balayée.
Tout à fait. Je veux dire, c'est des populations qui se retrouvent obligées d'adopter des stratégies à court terme pour faire face à des événements climatiques, des catastrophes climatiques. Et ça remet en cause beaucoup des gains qui ont été faits ces dernières années.
Alors justement, à propos de stratégie, un exemple des conséquences justement du réchauffement climatique. Depuis le mois de juin, une douzaine de pays d'Afrique de l'Ouest ont souffert de graves inondations qui ont fait plus de 159 morts et affecté près de 600 000 personnes. Les conséquences sont catastrophiques, comme le soulignent ces différents témoignages recueillis par la rédaction Action Afrique de RFI.
En ce qui me concerne, moi j'ai actuellement 3 ou 4 familles que j'héberge à la maison. Les gens qui ont perdu leur abri, leur maison, qui se sont écoulés, comme ils ne peuvent plus aller ailleurs ou chez un voisin, ils sont obligés de se transporter sur la route. C'est un spectacle désolant. Et là, les maisons continuent par s'écrouler.
On ne sait pas ce qu'on va devenir. C'est ici qu'on se débrouillait. Maintenant que la digue a cédé, l'eau s'en va et il n'y a plus de poissons. Or, c'est ce qui nous permettait de vivre. Si j'étais venu d'ailleurs, j'y retournerais immédiatement. Mais ici, c'est chez moi. Lorsqu'il y a du poisson, on peut gagner le minimum, parfois 5000 francs par jour ou 2000 francs quand ça ne marche pas. Maintenant, vous voyez qu'il n'y a plus d'eau, on ne peut plus pêcher, on est bloqué.
On a tout perdu. Preuve ici, il n'y a rien. Tout est tombé, tout est réduit en sable. C'est Dieu qui a fait ça, seul Dieu sait pourquoi il a fait ça.
Il y a différents types de risques. Il y a les risques évidemment immédiats, qui sont les risques sanitaires, les risques liés à la noyade, les risques liés à l'électrocution, les risques liés également à la sécurité alimentaire. Mais nous voyons également d'autres risques sur un horizon un peu plus lointain, qui sont les risques liés à la perte des moyens de production.
Alors ce type de situation va malheureusement se multiplier, Romain Benicchio.
Tout à fait. Je veux dire, les catastrophes climatiques sont en augmentation. On estime qu'elles vont augmenter de 50% d'ici à l'année 2015. Elles vont toucher dans le monde 375 millions de personnes. C'est le cas en Afrique, c'est le cas en Asie. On retrouve ce problème. Donc ça pose un certain nombre de questions en termes d'adaptation à cette nouvelle situation par rapport aux inondations. On peut citer l'exemple, donc la construction de digues, la préparation de banques céréalières qui résiste aux inondations pour permettre aux populations de se nourrir dans ces situations. Ça crée aussi des problèmes de déplacement de population. On estime aujourd'hui qu'il y a 26 millions de personnes qui sont déplacées en raison du péril climatique, un chiffre qui pourrait aller à 200 millions de personnes à l'horizon 2050. Donc il y a une urgence actuelle à vraiment traiter ce problème.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous parlons aujourd'hui du problème de l'adaptation des pays du Sud aux conséquences du réchauffement climatique à l'occasion de la sortie d'un rapport de l'ONG Oxfam sur ce sujet. Alors on a bien entendu les conséquences dramatiques du réchauffement climatique dans les pays du Sud. Maintenant, quelles sont les solutions? Elles sont vastes, mais quelles sont les solutions qu'il faudrait mettre en place pour lutter, enfin, pour accompagner cette adaptation?
Alors je dirais que le premier point, le point central, c'est la question du financement de cette adaptation. Il y a diverses estimations qui ont été faites. Oxfam parle d'un besoin de 40 milliards d'euros au moins par an pour l'adaptation.
C'est une estimation basse, hein, parce que la Commission européenne, par exemple, a dit 100 milliards.
C'est une estimation basse. Il y a plusieurs agences des Nations Unies qui ont des estimations plus importantes. Enfin, on parle d'un ordre de grandeur de 50 à 100 milliards. Je dirais que l'important, c'est de bien réaliser cet ordre de grandeur, notamment par rapport à ce qui est versé aujourd'hui pour le financement de l'adaptation, qui est de l'ordre de 400 millions de dollars. Donc, il y a vraiment un besoin d'augmenter ces financements pour l'adaptation de manière exceptionnelle.
Vous dites qu'il suffirait d'investir 0,1% du PIB des produits industrialisés.
Voilà, ce chiffre des 40 milliards peut paraître important en soi, mais quand on le rapporte au PIB des pays industrialisés, effectivement 0,1%, je dirais que ça le met dans un contexte un peu plus large.
Mais surtout quand on remarque que selon le groupe d'experts sur l'économie mondiale, 1 800 milliards de dollars ont été investis depuis le début de la crise financière pour sauver les banques en difficulté.
Voilà, tout à fait. Et ces sommes ont pu être mobilisées assez facilement.
Alors, on voit bien aussi que ce qui est important, c'est peut-être faciliter l'accès à la formation, l'accès à l'information, pardon, pour les populations, l'information météorologique notamment. Par exemple, en Afrique, la mousson varie d'une année sur l'autre dans sa forme et dans sa durée. Et si les agriculteurs sont mieux informés, ils peuvent anticiper. C'est en tout cas l'objectif du travail du programme AMA, analyse multidisciplinaire de la mousson africaine. Igor Strauss a rencontré les spécialistes.
La mousson africaine a toujours varié selon les années. Alors comment sera-t-elle cette année? Y aura-t-il beaucoup d'eau? Quand va-t-elle commencer? Pour le savoir, on peut tout simplement attendre les premières gouttes de pluie, mais il est également possible de prévoir l'arrivée de la mousson à l'avance, comme nous l'explique Benjamin Sultan, climatologue à l'Institut de Recherche et de Développement.
Il y a une partie qui est effectivement d'observation, et ça peut être aussi d'essayer de l'anticiper plus longue échéance. Par exemple, on a récemment montré qu'il y avait un lien entre la langue d'eau froide, donc au niveau du golfe de Guinée, et l'installation de la mousson.
Une langue d'eau froide, vous nous expliquez ce que c'est?
Langue d'eau froide, en fait, c'est de l'eau profonde qui va remonter en surface, donc qui va refroidir les eaux de surface. Et donc ça, c'est vraiment important pour mettre en place des gradients thermiques entre l'océan qui va être plus froid et le continent qui va être très chaud. Et donc ces gradients thermiques vont être un des moteurs de la mousson et de son installation sur le continent.
Mais alors concrètement, sur le terrain, à l'échelle humaine, à l'échelle des populations, qu'est-ce que ça entraîne, cette variabilité de la mousson? Et dans quelle mesure une meilleure compréhension de la mousson va, par ricochet, améliorer le quotidien des populations sur place?
Le fait de pouvoir mieux comprendre la mousson, donc savoir si une année où il va pleuvoir moins que la moyenne, ça va permettre de pouvoir anticiper ce type de crise alimentaire. Et donc essayer aussi de réduire ces impacts en donnant des conseils aux agriculteurs en utilisant l'information climatique.
Alors quel type de conseils, par exemple, très concrètement?
Par exemple, au Sénégal, il pleut à peu près autant qu'à Paris, mais en fait, toutes les pluies sont réunies sur la saison d'été. Et donc, le paysan il va essayer de semer au moment du démarrage de la mousson pour pouvoir profiter de toute la saison des pluies. Donc, s'il rate le début, il va avoir moins de pluie. Donc, un des types de conseils, ça va être de dire au paysan, c'est le moment du démarrage des pluies, vous pouvez semer à ce moment-là. Il y aura moins de risques de sécheresse si vous semez à ce moment-là. Ça peut être savoir si il faut mettre ou pas des fertilisants. Par exemple, si on est capable de prévoir une mauvaise année, c'est pas apparemment nécessaire pour le paysan de mettre beaucoup de fertilisants puisque il va payer très très cher ses fertilisants et au final le rendement va être très mauvais parce que c'est une mauvaise année. Au contraire, si c'est une bonne saison des pluies, il faut être capable de le dire aux paysans et qu'ils puissent prendre des mesures pour acheter plus d'engrais, pour acheter des semences plus productives, pour pouvoir bénéficier de cette bonne saison des pluies.
Le Sahel est quand même une région assez vaste. Comment faites-vous pour que les paysans, les personnes concernées, aient accès à l'information?
Il y a quand même des réseaux qui existent sur la diffusion de la prévision. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en Afrique de l'Ouest donc suite aux grandes sécheresses des années 80, donc qui sont relayées par des organismes régionaux donc qui regroupent plusieurs pays africains, comme l'Agrimet ou comme l'ACMAN, et qui ont mis en place des services de diffusion de l'information par radio ou par Internet. Et donc la radio en particulier, ça marche très très bien. Et en faisant des enquêtes auprès des paysans, ils sont aperçus que les paysans écoutent énormément la radio, et en particulier les prévisions météorologiques. Et donc là, il y a un relais qui est très très bien pour l'Afrique, puisque tous les paysans, même dans des endroits très très reculés, ont accès à la radio et l'écoute.
Romain Benicchio, l'accès à l'information, c'est une donnée essentielle de l'adaptation?
Tout à fait, puisqu'on se retrouve dans une situation où il y a des changements importants du climat, des saisons des pluies, des saisons sèches qui sont déplacées, qui sont plus longues, qui sont plus importantes. Donc à partir de là, il y a une remise en cause des processus traditionnels agricoles. Et à partir de là, il est nécessaire d'avoir des systèmes d'information importants pour que les agriculteurs puissent s'adapter à la nouvelle situation. Donc ça passe par une information plus importante, comme on l'a déjà entendu très bien dans le sujet, mais également par un accès aux intrants, par des semences qui puissent être davantage adaptées à la nouvelle situation pour permettre d'assurer la sécurité alimentaire. Le risque de famine est quelque chose qui est vraiment très présent et central dans la situation actuelle.
Oui, il y a déjà 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, c'est colossal.
C'est déjà colossal, il y a eu la crise alimentaire récemment, et la nouvelle situation, le changement climatique, va continuer à aggraver le problème.
Alors le problème, on en parlait tout à l'heure, hein, c'est qu'évidemment, ne serait-ce que pour donner les bonnes graines à cultiver, etc., tout ça a un coût, et c'est vrai qu'à 3 mois de la conférence des Nations Unies sur le climat, hein, qui se déroulera à Copenhague au mois de décembre, on a l'impression que les pays du Nord ont du mal à s'engager sur le montant qu'ils seront prêts à payer.
Tout à fait, ils sont restés silencieux toujours sur le montant qui serait prêt à...
Sauf l'Europe.
La Commission européenne a effectivement proposé des chiffres, mais c'est pas la position de l'Union européenne, des États membres. Les États membres n'ont pas encore, indiqué ce qu'ils étaient prêts à mettre sur la table sur ce dossier. Et on voit que ça crée une certaine frustration, un manque de confiance de la part de leurs partenaires dans les négociations, notamment les pays africains. Récemment, le président de l'Éthiopie a indiqué que les pays africains seraient prêts à quitter la table si l'accord qui se dessinait ne prenait pas complètement en compte leurs besoins.
C'est un coût qui est extrêmement difficile à évaluer quand même.
C'est un coût qui est difficile à évaluer, qui est difficile à chiffrer précisément tant qu'on n'a pas, je dirais, commencé à mettre en œuvre ces stratégies d'adaptation. Il y a quand même déjà des choses qui existent. Tous les PMA, les pays les moins avancés, ont présenté des plans nationaux d'adaptation qui sont assez précis, qui donnent déjà une idée de l'ampleur du problème. Donc il y a quand même déjà des choses qui existent et qui permettent de démarrer...
Encore faut-il que ces financements soient correctement distribués, hein, en tenant réellement compte des besoins justement des hommes et des femmes qui vivent dans ces pays, plutôt qu'en fonction des priorités et des préférences des bailleurs de fonds, c'est une habitude qu'on a déjà vue beaucoup dans l'aide au développement.
Tout à fait, c'est une des questions sur l'aide au développement sur lesquelles on travaille, et sur le financement d'adaptation, notamment il y a un certain nombre de fonds... internationaux qui existent, qui dépendent de la Banque mondiale ou autre. Donc il y a une multiplicité, je dirais, des fonds qui existent et qui permettent, je dirais, pas vraiment une véritable implication des pays destinataires, un véritable alignement sur leurs priorités nationales.
Oui. Ah oui, il y a quand même un gros problème, c'est que beaucoup de promesses n'ont pas été honorées. Hein. Il y a quand même un passif entre ces pays du Nord et le Sud qui fait que la situation va être compliquée. En tout cas, il y a un problème de confiance.
Il y a un problème de confiance sur l'adaptation. Notamment, on voit que les promesses qui avaient été faites sur le financement de l'adaptation dans la période actuelle n'ont pas été tenues. La moitié des financements qui avaient été promis a été versée. Donc on est déjà très loin du compte, alors qu'on parle de montants qui sont beaucoup moins importants que ce qui sera nécessaire d'ici quelques années.
Donc, ouais, vraiment très loin du compte, hein, puisque vous dites dans votre rapport que moins de la moitié des montants promis pour l'aide au développement n'ont pas été reçus et que seulement 15%, c'est quand même incroyable comme chiffre, ont été distribués aux pays les plus pauvres pour s'adapter au changement climatique. Seulement 15%.
Tout à fait. Donc ça participe effectivement à cette frustration, à cette méfiance dans les négociations actuelles.
Et pourtant, sur le sida, la tuberculose, le paludisme, enfin, il y a eu quand même des mobilisations qui ont été importantes, significatives, même si effectivement on n'a pas résolu ces grandes questions.
Tout à fait. Je dirais que ça démontre que quand il y a une volonté politique forte, je dirais que traiter le problème est possible. Et cet exemple du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et la malaria, qui a été mis en place assez rapidement et qui a permis, je crois, aujourd'hui, des financements de 15,6 milliards dans 140 pays, alors que le fonds a été créé en 2002. Donc des solutions rapides et, je dirais, conséquentes sont possibles quand il y a une véritable volonté politique derrière.
Alors vous expliquez quand même qu'il est impératif, hein, que cette aide à l'adaptation au changement climatique s'ajoute à l'aide publique au développement et ne le remplace pas. Et c'est important de le dire parce que pour l'instant, il n'y a que le Danemark, le Royaume-Uni et les Pays-Bas qui se sont engagés à ce que le financement de l'adaptation vienne en complément.
Tout à fait. Ce qu'on observe aujourd'hui dans le débat politique, c'est qu'il y a un certain risque de mélange des genres entre l'aide publique au développement qui doit remplir un certain nombre d'objectifs, les objectifs de développement du millénaire, l'accès à la santé, à l'éducation. Et ces fonds, je dirais, doivent être... sacralisée, et l'aide à l'adaptation doit venir en plus de cette aide publique au développement.
Yeah.
Dany dans C'est pas du vent sur RFI. Alors Oxfam, donc l'on reçoit aujourd'hui dans cette émission, lance une grande campagne en France pour justement secouer un peu les mentalités sur cette question du changement climatique. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire justement quel est le contenu de cette campagne?
Donc Oxfam France Agir ici donc lance sa première campagne sur le thème du changement climatique. Donc pourquoi? C'est parce que dans moins de 3 mois, donc va se tenir à Copenhague la conférence des Nations Unies sur le climat.
On le dit tous les jours ici.
Voilà, c'est une conférence décisive parce que donc notre avenir dépend des choix politiques qui vont être pris par les chefs d'État et de gouvernement à cette occasion, et aussi parce que on considère que la France a un rôle clé à jouer et qu'en fait on lui demande de prendre la tête de ce combat donc dans les négociations internationales, principalement au niveau européen et au niveau mondial. Donc après, les messages que l'on souhaite faire passer, c'est en fait donc tout d'abord de sensibiliser et mobiliser l'opinion publique. Donc sensibiliser, donc c'est sensibiliser sur une question qu'on le considère un peu négligée dans les négociations internationales. Donc c'est cette question du coût humain du changement climatique. Et donc Oxfam a une véritable expertise dans ce domaine donc du financement de l'adaptation. Et notre véritable valeur ajoutée, c'est donc d'être présent sur le terrain et donc de constater tous les jours dans notre travail que le changement climatique affecte directement
les pays.
Donc
ça veut dire qu'en gros, vous montrez aux gens des témoignages, vous distribuez des plaquettes.
Voilà, donc en fait, on essaye donc vraiment de sensibiliser sur cet impact humain du changement climatique. Et après, donc l'idée, c'est que la campagne se présente sous la forme donc de dépliants et de cartes postales, parce que donc on souhaite mobiliser le citoyen, parce qu'on considère qu'il peut agir, donc faire pression sur les décideurs. Et donc le moyen, c'est qu'il donc peut envoyer des cartes postales au président de la République, au ministre de l'écologie Jean-Louis Borloo et à son député, pour que ceux-ci se saisissent de l'urgence de la situation et qu'ils donc mettent tout en œuvre pour honorer la dette écologique.
Alors tout en œuvre, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous attendez de cette délégation française
donc,
à Copenhague?
Concrètement, ce que Oxfam souhaite pour Copenhague, c'est donc tout d'abord que les pays industrialisés et que l'ensemble des pays s'engagent donc à limiter l'augmentation de la température en dessous du seuil de 2 degrés. Donc ça, c'est l'ultime priorité. Ensuite, les principales demandes, donc c'est que les pays industrialisés donc reconnaissent leur dette écologique et donc qu'ils cessent de nuire dès maintenant et qu'ils réduisent drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc concrètement, on demande une diminution d'au moins 40% d'ici à 2020 par rapport au niveau de 1990, donc des réductions des gaz à effet de serre. Et après, donc comme Romain l'a déjà souligné, donc c'est le financement, un financement donc à hauteur de 110 milliards d'euros par an, donc pour couvrir...
Là, vous n'êtes pas d'accord sur les chiffres.
Si, tout à fait. Le chiffre de 110 milliards prend en compte l'atténuation et l'adaptation.
Ah, d'accord.
Précédemment, voilà. On parlait uniquement de l'adaptation, les 40 milliards d'euros.
Donc voilà, donc les 110, c'est donc pour couvrir les mesures d'atténuation, donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation. Et donc, c'est impératif que ce soit donc additionnel et distinct de l'aide publique au développement, parce que c'est donc le principe, c'est que ce n'est pas pays développé à pays en développement, mais c'est que véritablement pays pollueur à pays pollué, donc pour... réparer en fait cette injustice climatique.
Et alors cette campagne a démarré déjà un petit peu, quelles sont les réactions?
Donc cette campagne donc en fait elle s'inscrit véritablement donc dans le cadre de l'ultimatum climatique. Donc c'est cet appel qui a été lancé donc par 11 ONG dont Oxfam France est signataire avec WWF, Greenpeace, Action contre la faim et d'autres. Et donc en fait donc cette campagne, donc les signatures qu'on va recueillir vont s'ajouter à celle de l'ultimatum climatique dont l'objectif est de recueillir 1 million de signatures avant Copenhague pour que le
président... Vous en êtes à combien au niveau de l'ultimatum climatique?
On est à plus de 100 000, donc je ne sais pas exactement les chiffres, mais...
Ouais, 900 000 d'ici en 3 mois, mais vous me direz, la mobilisation va monter de plus
mais
en
voilà,
plus vers
Copenhague. Justement, on espère qu'avec cette campagne, donc le citoyen se mobilise et que vraiment de recueillir des voix.
Et alors, on va être utile, puisque on peut aussi, si on n'a pas, nous, nos éditeurs, on ne vend pas forcément vos cartes postales, mais on peut voter sur Internet.
Donc, tout à fait. Donc, si l'auditeur peut aller donc, sur le site Internet d'Oxfam France, c'est www.oxfamfrance.org. Et donc là, tout est disponible. On peut télécharger la campagne, on peut télécharger donc, le dépliant. Ensuite, il y a les rapports d'Oxfam qui sont également disponibles et toute autre source d'information. Et donc, c'est donc vraiment, on encourage les citoyens à signer la campagne.
Merci Isabelle Passe, Romain Bénicchio. C'est vrai qu'il y a urgence. Hein. Il faut rappeler, comme le dit Kofi Annan, qu'aujourd'hui, 300 000 personnes meurent par an du réchauffement climatique.
Tout à fait, ça fait partie des statistiques, des chiffres. sur lesquels on insiste, le changement climatique a un coût humain. Il a un coût humain aujourd'hui qui ne va que s'aggraver. Il reste, je crois, un petit peu plus de 80 jours avant cette conférence de Copenhague. On est encore très très loin du compte en termes d'accords politiques. On est très loin de voir un accord, je dirais, équitable et juste qui se dessine. Il y a vraiment urgence à agir.
Merci à tous les deux, donc Isabelle Passe et Romain Bénicchio, d'être passés dans C'est pas du vent. Demain, C'est pas du vent recevra Daniel Mitterrand pour réagir à l'actualité environnementale du jour.
Et nous nous intéresserons aux abeilles à l'occasion du 41e congrès international Apimondia qui réunit actuellement les apiculteurs du monde entier dans le sud de la France. À demain donc.
Même planète.
Même heure.